21h à Ouagadougou et à Conakry, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, au sommaire de Sahel Plus. Virus Ebola en Afrique de l'Ouest, point sur la situation au Burkina Faso aujourd'hui. Seconde partie de notre interview avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou.
Si les Libyens le souhaitent, il me semble que cela sera d'une grande utilité que soit envoyée une force internationale.
Mahamadou Issoufou se dit favorable à une intervention militaire internationale en Libye. Et le cinéaste guinéen Moussa Diakité sera dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon.
Sarah Diaby.
Nous sommes ensemble pour un bulletin d'information.
Le nouveau premier ministre centrafricain, Mahamat Camoun, a pris ses fonctions à Bangui, où les tractations continuent pour former un nouveau gouvernement élargi. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce jeudi en présence du premier ministre sortant, André Nzapayeke. « Il n'y aura pas de chasse aux sorcières », a déclaré M. Camoun à l'attention des membres de l'ancien cabinet.
Et M. Mahamat Camoun doit relancer la transition politique en panne et tenter d'obtenir l'application d'un fragile accord de cessez-le-feu signé fin juillet à Brazzaville. La coalition Ex-Séléka a prévenu qu'elle ne participerait pas au futur gouvernement.
L'épidémie d'Ebola se propage, on compte désormais 4 morts au Nigeria.
4 pays ouest-africains sont en état d'urgence sanitaire après la décision la nuit dernière de la Guinée d'y recourir. Sur le terrain, cela signifie que les mouvements des personnes sont restreints et soumis à des mesures de contrôle sanitaire. Les familles du personnel diplomatique américain vont être évacuées de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Ce pays est l'un des plus touchés par l'épidémie d'Ebola, c'est ce qu'indique le département d'État américain.
Au Sénégal, le responsable d'un quotidien privé a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 1 million de francs CFA d'amende pour diffusion d'une fausse information sur la présence du virus Ebola au Sénégal. Félix Nzalé, directeur du journal La Tribune, a comparu aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits. Il avait été arrêté lundi après que son journal, dans son édition du lundi, eut fait état de 5 cas du virus Ebola au Sénégal. Une information qui a été aussitôt démentie par les autorités.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président américain Barack Obama a lancé aujourd'hui un nouvel appel au calme et demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de retenue après les violences qui ont secoué Ferguson dans le Missouri où un policier blanc a abattu un jeune noir. Il a également souligné qu'il n'existait aucune excuse à la violence contre les policiers ou pour ceux qui profitent de cette tragédie pour piller ou saccager. Ferguson, situé dans la banlieue de Saint-Louis dans le Missouri, a connu plusieurs nuits de violences marquées en particulier par l'intervention musclée de la police anti-émeute.
Michael Brown a été abattu samedi dernier dans des circonstances controversées. Selon un témoin, le jeune noir qui n'était pas armé avait les mains en l'air lorsque l'agent de police l'a abattu. Selon la police, il a été tué après avoir agressé le policier et tenté de lui dérober son arme. Le FBI a ouvert une enquête.
Et le président américain qui s'est aussi exprimé sur les opérations en Irak, selon M. Obama, les États-Unis sont parvenus à briser le siège des djihadistes de l'État islamique sur le mont Sinjar. M. Obama a précisé que l'armée américaine allait poursuivre ses frappes aériennes contre l'État islamique près du Kurdistan irakien.
Au Proche-Orient, malgré quelques échanges de tirs la nuit dernière, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semble toujours tenu ce jeudi. Camille Grosdidier.
Les deux parties ont convenu mercredi de prolonger de 5 jours la trêve pour donner le temps aux négociations indirectes sous médiation égyptienne d'aboutir à un accord durable qui mettrait fin au conflit. Juste après l'annonce de ce nouveau cessez-le-feu, Israël a déclaré que des roquettes ont été tirées depuis Gaza et que son aviation a procédé à des frappes aériennes. Les affrontements ont cessé avant l'aube jeudi, sans qu'on signale 2 victimes. Depuis le début des violences en juillet, environ 1950 Palestiniens ont été tués, en majorité des civils. 67 Israéliens sont morts, pour la plupart des soldats. Le Hamas exige qu'Israël lève le blocus sur la bande de Gaza imposé il y a 8 ans. Israël veut que le Hamas se désarme complètement.
En Ukraine, l'armée a repris le contrôle de la route entre le bastion insurgé, Louhansk et la frontière russe, coupant ainsi l'itinéraire qu'est censé emprunter le convoi humanitaire envoyé par Moscou à destination de la ville de l'Est de l'Ukraine. Vous écoutez la voix de l'Amérique. Jean-Roger Bien à ce micro.
Sarah Diaby.
Pour vous servir, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+, sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons donc l'émission avec le virus Ebola. Nous nous arrêtons aujourd'hui au Burkina Faso, où, là aussi, malgré le fait qu'aucun cas du virus n'ait été signalé, les populations sont inquiètes. Le gouvernement, lui, a réfléchi à un plan d'action au cas où le virus Ebola franchirait les frontières. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Zoumana Wanogo.
Depuis que le mal avance à grands pas vers les portes du Faso, s'ensuit une peur mêlée d'angoisse.
Comme c'est les pays de la sous-région aussi, je me dis qu'avec les voyages tout autour, bon, ça peut arriver ici aussi. Ça nous angoisse des...
J'ai bien peur du virus Ebola, qui décime ceux mêmes qui traitent les victimes d'Ebola. Et quand tu meurs en plus, il faut brûler ton corps. C'est un drame, il est plus que le sida.
Ça fait peur. Une maladie qu'on ne connaît pas. Un pays pauvre comme nous, vraiment, ça fait peur. Et encore vu aussi que c'est une maladie aussi qui se transmet facilement, donc ça fait peur. On dit aussi qu'il n'y a pas de médicaments pour ça pour le moment.
Moi, ma crainte se situe au niveau même du mode de vie de nous, Burkinabés, parce que nous sommes des populations très collées aux questions sociales. Et c'est une maladie dont le mode de transmission est très, très facile. Et par voie orale, même tu peux contracter la maladie.
Pour temporiser cette peur qui risque de se muer en panique générale, le ministère de la Santé s'est mis en mode alerte. On écoute Léné Sebgo, le ministre burkinabé de la Santé.
Nous avons prépositionné les kits de protection individuelle au niveau de certaines directions régionales pour que, au cas où nous aurons besoin de les utiliser, qu'ils soient facilement transmis. Ces kits-là donc au personnel de santé. Avec les mouvements des personnes aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans notre sous-région qui peut dire qu'il est à l'abri d'une éventuelle contagion. Donc, pour pouvoir nous prévenir et dérouler le plan et puis voir si toutes les personnes concernées l'ont bien approprié et tout naturellement aussi discuter des questions pratiques avec les directeurs généraux des hôpitaux, avec les directeurs régionaux de la santé pour que chacun soit en alerte permanente au cas où malheureusement nous aurions affaire à cette maladie.
Cette préparation préventive a été suivie de l'interdiction de la chasse aux roussettes ou chauves-souris. Pierre Cafando, le directeur de la faune et des chasses au ministère de l'Environnement explique.
Les chauves-souris, les roussettes sont des porteurs sains du virus d'Ebola. Ça veut dire qu'ils ne développent pas la maladie, mais ils peuvent transmettre le virus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre des mesures conservatoires pour éviter que les gens ne rentrent en contact avec les roussettes qui peuvent être des moyens de transmission du virus à l'homme. Les roussettes chauves-souris sont prisées par les gens, donc on fait un appel à tous ces gens, aux tenanciers de restaurants, pour qu'ils évitent d'acheter des roussettes avec des chasseurs ou qu'ils vendent même, qu'ils préparent la viande de roussette. Les enfants qui manipulent avec des lance-pierres, d'éviter de le faire parce qu'ils peuvent se mettre en danger.
Et ce n'est pas tout, assure Alain-Édouard Traoré, le ministre porte-parole du gouvernement.
Nous avons ciblé un certain nombre de portes d'entrée pour faire face à la situation. Nous surveillons les passagers ou les transporteurs qui rentrent d'un certain nombre de pays. C'est ainsi que deux passagers qui étaient de retour de la Guinée, qui semblaient un peu fatigués, un peu fiévreux, on les a mis en quarantaine pendant 4 jours pour les surveiller avant de les lâcher. Il y a un plan ORSEC qui est en place. Nous surveillons jusqu'aux importations d'aliments. Nous sommes obligés de faire face à cette situation en prenant toutes les mesures.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+ sur la Voix de l'Amérique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Seconde partie de notre entretien avec Mahamadou Issoufou, le président du Niger, qui revient sur le terrorisme et l'instabilité de certaines zones ou pays comme la Libye dans le Sahel. Le président Mahamadou Issoufou au micro de Nicolas Pineau.
S'agissant de la Libye, je voudrais rappeler ici qu'à l'occasion du sommet du G8 qui a eu lieu à Deauville en 2011, j'avais prévenu qu'on courait vers une situation extrêmement difficile en Libye, j'avais dit qu'il fallait faire attention, il ne faut pas que la solution qu'on veut mettre en place en Libye soit pire que le mal. Et pire que le mal, je voulais dire par là, il fallait faire attention que la Libye ne se somalise pas. Il fallait faire attention également que le pouvoir en Libye ne tombe pas entre les mains d'intégristes, entre les mains de salafistes. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement compliquée en Libye. Et moi, nous, on est de ceux qui pensent qu'il faut premièrement neutraliser les milices qui sont en rivalité, qui s'affrontent en Libye et qui affrontent également le pouvoir central en Libye. Et il faut aussi mettre en place une réconciliation, y compris avec les kadhafistes. Et enfin, il faut, comme vous l'avez rappelé, envoyer une force internationale.
Donc vous êtes pour l'envoi d'une force internationale?
Si les Libyens le souhaitent, il me semble que cela sera d'une grande utilité que soit envoyée une force internationale. Maintenant, sous quelle forme cela prendra, c'est des modalités qu'il va falloir examiner.
Vous avez parlé de la coopération militaire avec les États-Unis. Il y a évidemment un grand partenaire pour vous également, c'est la France, et notamment l'opération Barkhane, avec Niamey comme l'une des bases principales. Certains ont pu parler de néocolonialisme avec évidemment la présence française militaire au Niger et également les contrats d'uranium avec Areva. Quelle est votre réponse?
Écoutez, ça peut donner cette impression. Je regrette que 50 ans après nos indépendances, qu'on ne soit pas capable d'assurer notre sécurité. Et nous sommes aujourd'hui à l'état des rapports de force qui existent à l'intérieur de nos pays, entre nos forces armées et les terroristes, le crime organisé. Nous avons besoin de coopérer avec ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les moyens de renseignement, ceux qui ont les équipements. Et ceux qui ont les moyens de renseignement et les équipements, c'est les pays que vous venez de citer, la France notamment, les États-Unis. Et je vous donne un exemple, c'est l'exemple du Mali. Sans l'intervention Serval, on n'aurait pas contenu l'avancée des djihadistes sur Bamako. Si la France n'était pas intervenue au mois de janvier 2013, aujourd'hui, les terroristes seraient à Bamako et peut-être à Niamey et peut-être à Abidjan, à Dakar, etc. Donc, personne ne doit nier l'utilité de la coopération entre nos pays, sur le plan sécuritaire, j'entends, entre nos pays et la France et les États-Unis. Cette opération Serval a été très bénéfique, a permis d'affaiblir les terroristes au nord Mali, mais ces terroristes ne sont pas vaincus. Les menaces existent. Pour certains d'entre eux, ils sont allés se réfugier en Libye. Et vous avez évoqué la menace de Boko Haram. Donc les menaces sont présentes. Nous avons encore besoin de coopérer. Et c'est pour cela que nous saluons cette opération Barkhane qui a été décidée par la France.
Pour revenir sur les relations franco-nigériennes, il y a évidemment cet accord avec Areva, un partenariat que vous souhaitiez gagnant-gagnant. Vous souhaitiez améliorer les rentrées fiscales pour l'État nigérien. Mais le site d'Imouranem est encore reporté au niveau de son exploitation. N'est-ce pas là l'une des carences de ce renouvellement du contrat?
Il n'y a pas de carence. Le contrat que nous avons conclu, négocié avec Areva pendant des mois, est un contrat équilibré. C'est un contrat qui améliore les recettes du Niger dans la mesure où les conditions fiscales dans lesquelles les sociétés qui existent vont continuer à exploiter l'uranium sont plus favorables au Niger que les conditions précédentes, parce que les conditions précédentes sont celles du code minier de 1993, alors que les conditions actuelles, c'est celles du code minier de 2006. Mais en ce qui concerne Imouranem, vous savez, on n'exploite pas une mine pour l'exploiter. On exploite une mine pour pouvoir réaliser des profits. Or, aujourd'hui, depuis les accidents de Fukushima, vous le savez, le marché de l'uranium est déprimé. Les cours de l'uranium ont baissé, les prix ont baissé sur le marché mondial. Nous n'allons pas mettre sur le marché une nouvelle production qui va encore déprimer le marché et qui reviendrait, en fin de compte, pour les Nigériens, à brader leurs ressources naturelles. Nous n'avons pas à brader nos ressources naturelles. Nous allons attendre jusqu'à ce que le marché s'améliore. En ce moment-là, nous pourrons mettre en production Imouranem et créer les conditions pour que le Niger puisse profiter au maximum de ses ressources naturelles.
Mahamadou Issoufou, le président du Niger. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+ sur la Voix de l'Amérique et sur le 101.9 FM à Agadez, au Niger, sur la radio Nomade. Cinéma aujourd'hui dans notre page culture avec le cinéaste guinéen Moussa Diakité, dont le long métrage le plus connu est Naïtou l'orpheline, qui avait remporté la mention spéciale du jury aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie et le prix de l'UNESCO au FESPACO 1983 à Ouagadougou. Moussa Diakité.
Actuellement, je réfléchis beaucoup sur l'Afrique contemporaine, la Guinée actuelle. Et j'ai envie de faire un long métrage dans ce sens-là. Mais ce que je veux, c'est de faire un film du point de vue d'un cinéaste qui traduit la réalité qu'il vit, quelle que soit cette réalité, la réalité politique, la réalité sociale, la réalité économique.
Le cinéaste guinéen Moussa Diakité. Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Michael Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Baby Love de Diana Ross et les Suprêmes, chef-d'œuvre de la Motown qui vient de fêter ses 50 ans. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.